réseau Cogeco. Voici les week-ends de Paulud.
Alors, comment allez-vous? Si vous venez à peine de vous joindre à nous, il est 9h04. Le Québec va être divisé, comme c'était le cas hier, de ceux qui étaient dans la manifestation, ceux qui étaient contre la manifestation. Non, je parle de la météo. Du soleil à Montréal, oui, mais avec des nuages, 16. Généralement ensoleillé en Outaouais avec 15, mais de la pluie intermittente à Trois-Rivières, en Mauricie, et à Sherbrooke, 14 degrés là-bas. Notre question du jour, les surnoms, les colibets, les petits mots d'amour, ça n'arrête pas. Le Québec est un surnom. C'est le titre de mon prochain livre, Thérèse.
C'est sûr.
Le Québec est un surnom. D'ailleurs, vous êtes tellement nombreux à nous rappeler que l'un de nos plus célèbres premiers ministres avait comme surnom Tipoil. Hein? Et ça se voulait affectueux.
Hein? Oui, c'était dérangeant des fois.
C'était René Lévesque, bien sûr. Si vous cherchez encore, mais je ne peux pas croire que je suis obligé d'expliquer à François Brisson que Tipoil, c'était René Lévesque. Non, mais peut-être toi aussi, François, qui, lui, ne connaît qu'une chose du Québec, son comté d'ange gardien.
Ouais,
il doit en avoir des surnoms dans ton bout, François.
Oui, madame!
Il doit en avoir des surnoms.
Ici, on a quelqu'un qui, Hélène, qui nous dit que son mari l'appelle « ma spouse » en prononçant en français. Et suite à notre séjour de 3 ans en Angleterre, puis à un moment donné, elle dit « moi, je l'appelle maintenant mon spou ».
Oh, c'est gentil!
Alors, mon spou...
Mais c'est parce que c'est affectueux.
C'est
comme ici, on a travaillé longtemps, et nous la saluons d'ailleurs, Alexandra Pouliot. D'abord, on ne l'a jamais connue comme étant Alexandra. Il n'y a pas une seule Alexandra au Québec en ce moment, ou un seul Alexandre. C'est tout des Alex.
Mm-hmm.
Hein?
Oui.
Bon, alors, on l'a connue comme Alex. Puis à un moment donné, quand on faisait référence, Martin, à Alex Rodriguez.
A-Rod.
Joueur. C'était A-Rod, son surnom avec les Yankees. Alors nous, on l'a adapté avec Alexandra Pouliot et on a fait Époux. Alors,
on l'a appelé, on l'appelle encore Époux.
Oui, ça fait 15 ans qu'on l'appelle comme ça. Je vous rappelle que si vous n'étiez pas avec nous plus tôt, nous avons dévoilé un secret ici à l'intérieur des murs de notre studio, que le surnom de Thérèse Parisien est Titi.
Et tu sais qu'il y a un auditeur...
Titi, il y a des gens qui ne savent pas ça.
Il y a un auditeur, Daniel, qui nous a écrit et qui a dit « Je me souviens de Titi parce qu'un jour, Marie-Claude Arsenault... Marie-Claude Arsenault, ben oui,
oui.
C'est ça.
L'animatrice?
On travaillait ensemble.
Marie-Louise?
Non, Marie-Claude ici.
Ah!
Marie-Claude.
Voyons, la vallée.
Marie-Claude la vallée.
Seigneur, ça va bien?
Oui, ça va bien.
C'était le lapsus du jour.
Marie-Claude la vallée qui m'avait appelé Titi en onde une couple de fois, parce qu'on s'appelait comme ça en privé.
C'est vrai?
Oui, c'est arrivé une couple de fois. Mais il y a quelqu'un qui nous écrit qui dit que lui, il s'appelle Carlos, puis il dit « on m'a toujours appelé Carlos Ramirez depuis que je suis jeune, et c'est à cause de la sœur volante. »
La sœur volante!
Oui, il y avait un personnage qui s'appelait...
C'était l'homme à tout faire, là,
ouais.
Qui venait au couvent.
Oui, tout à fait.
Pour puis aider...
Carlos Ramirez.
La sœur volante.
Il y a François qui nous dit que son père, le surnom de son père, il dit « écoute, moi, je suis né, puis mon père, ça a toujours été Bébé Deschaine. » Parce que c'était le plus jeune de la famille. Alors, il dit aux fêtes, n'importe quand. Là, on entendait, tous les autres avaient des prénoms, sauf qu'on disait, on va aller manger chez bébé. Non, ça se passe chez bébé. C'était toujours Bébé Deschaines parce qu'il était le plus jeune de la famille.
Ah, ben voilà pourquoi.
Ouais. On va souper chez bébé.
On a eu un premier ministre au Canada, Pierre-Éliott Trudeau, Pet.
Oui.
Oh. Mais c'est vrai, mais c'est vrai, petit Pet. Et puis,
c'était,
bon.
Ouais. Il y a un auditeur qui nous dit... Je m'appelle Yves et depuis des années, ma famille m'appelle Ivre. À la suite d'une blague, là, vraiment, bon. Il dit, on m'appelle Ivre et on a toujours continué à m'appeler comme ça. Et dernièrement, on lui a remis un laminé, vraiment un cadeau, et à son anniversaire, puis c'est inscrit dessus, Ivre de bonheur, ne pas confondre avec Ivre de bonheur. Et là, évidemment, il y en a un qui est écrit de bonheur. C'est comme tôt, trop tôt, ivre trop tôt, et ivre de bonheur, de plaisir.
Le bonheur, le plaisir.
Alors, c'est très, très joli. Un homme qui appelle sa femme l'oiseau, et je l'ai toujours appelé l'oiseau. Ça a toujours été comme ça, je ne sais pas pourquoi, il ne sait pas d'où ça vient. Mais quand elle est fâchée, je l'appelle des fois la corneille quand elle parle fort.
Ben voilà, mais il devrait se lier d'amitié avec celui qui appelle sa femme la mouette.
Oui, ça oui.
Ça là, vraiment, ici... Je pense que ça ne vaut pas la peine de chercher pourquoi, ou non?
Non, on ne cherche pas pourquoi.
OK. Martin Cole Caulfield.
Il y a quelqu'un qui était...
Dont le surnom maintenant est Cole Caulfield.
Oui, Daniel nous rappelle ça aussi.
A donné la victoire aux Glorieux. Tiens, un autre surnom, les Glorieux.
Oui, mais est-ce qu'on dit Cole Caulfield ou Gold Caulfield?
Oh, ah, ben là, il faudrait qu'il gagne...
On peut dire les deux.
Non, mais il faudrait qu'il gagne une médaille d'or olympique. Ouais. Parlons de l'Olympique, nous allons parler...
Tout se transforme en or.
Oui,
c'est,
mais...
comme, c'est comme Nick Suzuki qui a failli s'appeler Tour du Chapeau.
C'est oui. Suzy.
Oui, mais il a failli s'appeler, il y a quelqu'un qui lui dit, Sidekick. Suzuki Sidekick. Parce que dans le monde du sport, Martin, Thérèse, c'est là où on retrouve, il n'y a personne qui porte vraiment son prénom. C'est vrai.
Mm-hmm.
C'est
oui,
vrai.
Non, il y en a plein.
Dans le monde du sport, c'est incroyable. Ce ne sont que des diminutifs.
Bergie.
Mm-hmm.
Minick. Oui. Mario le Magnifique, c'était...
Mario Lemieux.
Mario Lemieux, oui.
Éric Fichaud, Fiche.
Sid the Kid,
exactement.
Tiger Wood.
Oui, t'as...
Jean-François nous dit que son vrai nom, c'est Eldrick.
Oui, c'est ça. Eldrick, dans le temps, bon, évidemment, avant que ça... ses affaires virent mal. O.J. Simpson, c'est Oriental James Simpson, mais son surnom, c'était The Juice.
Ah.
Voilà, ça a toujours été ça. Et O.J., tu sais, Oriental James. Ah, ça ne finit plus, ça ne finit plus. Et ben, évidemment, je n'ai pas à dire à Richard Châteauvert, qui est à New York, les Américains raffolent. Les Américains raffolent de ces diminutifs et ces surnoms comme...
Oui, mais Paul...
bonjour, Richard, à New York.
Oh, bonjour.
Dans
Paul.
La grosse pomme.
O.J., the juice, c'est parce que O.J. en anglais, c'est orange juice, jus d'orange.
C'est pour ça, Oriental James.
Oui, mais c'est la raison pour laquelle on l'appelait The Juice.
Exact.
Parce que O.J., orange juice.
Mais c'est comme vous, Richard, vous avez un prénom, c'est-à-dire, non, vous avez un nom qui se prête à l'anglicisation parce qu'on a eu beaucoup de brise-bois que les gens ont connu ici comme étant des crackwood et des oui. bois verts. Dont le nom
a été... des Greenwood.
Des Greenwood. Ouais. Vous, Richard, Château Vert.
Ah oui, mais ça, c'est... Moi, j'ai eu beaucoup de surnoms. Évidemment, le premier, c'est Château. Hey, Château, viens ici. Hey, Château, fais ça. Et l'autre, évidemment, vous parlez d'anglais, c'était Green Castle. Ah, les gens m'appelaient ça. Alors, je parle des Québécois, là, Québécois francophones, qui m'appelaient Green Castle. Et j'ai travaillé sur les plateaux de cinéma. Une fois, il y avait une directrice de production qui m'appelait Châteauneuf-du-Pape.
Oh! Ah, mais là, mais ça, c'est quand même un compliment.
Quelle année?
Mais là, vous dites quoi quand vous présentez à un Américain? Faites-vous le Château Vert? Ou...
Hey, ça, c'est, oui, ça, c'est compliqué. J'ai déjà, au début, lorsque je suis arrivé ici, j'ai reçu une lettre. C'était écrit Richard Châtelbert. Châtelbert, ça serait un ours.
un autobus?
Château, c'est une navette. Un exact. Ours navette. Alors, quelqu'un avait écrit mon nom au son. Alors, ici, il faut leur expliquer que le T ne se prononce pas à la fin. Puis après ça, on leur dit « it means green castle » in oui. English. Ça les impressionne.
Ben oui. Et évidemment, le diminutif anglophone de Richard, c'est « Dick ». Et on a surnommé un président américain « Tricky Dick
oui. »,
qui était Richard Nixon.
Et oui, et moi, on m'a surnommé aussi, encore une fois, les francophones, Rick ou Dick. Il y a même eu, là, ceux qui comprennent l'anglais vont comprendre, Rick the Prick.
Oh non!
Ah, mais ça va bien.
C'est drôle parce qu'on a un auditeur tantôt qui nous a dit que lui, il s'appelle Richard, puis les gens, il dit quand on m'appelait Rich, c'était correct. Quand on m'appelait Dick, j'étais
ben, c'est parce que
ça,
Dick
évidemment.
Peut désigner
oui,
autre chose.
Ça, évidemment.
Évidemment, dans la langue anglaise. Mais Richard, c'est caractéristique. Hein? Je disais que les Américains raffolent de ces diminutifs et de ces surnoms.
Mais Paul, vous savez aussi que quand on va dans le sud des États-Unis, vous y êtes allé, quand on entre dans un restaurant, la moitié du temps, la serveuse nous appelle « What do you want, honey? »
Honey, miel.
Honey,
oui.
Honey.
C'est vrai.
Thérèse, ça vous rappelle-tu notre voyage dans le Kentucky? Oui. Écoute, on arrive, Richard, dans le Kentucky, une toute petite ville, Hopkinsville. Oh. Et il y a un lieu célèbre où on doit aller manger absolument dans un comptoir qui sert des burgers.
Et pourquoi on doit aller manger là absolument? Parce que George Bush allait manger là régulièrement.
George Bush? Ouais. Oui, oui. George W. Bush, président, s'est arrêté là pour aller prendre un hamburger. Ouais. Alors je dis à Thérèse, si le président est passé là, il faut y aller. Il y a une serveuse. Écoutez, avec un accent prononcé du Sud. Là. Ouais. On avait de la difficulté à la comprendre. Et elle nous a accueillis dans le restaurant à 9h30 le matin, Richard, en disant « Hi, honey!
» C'est extraordinaire.
C'est comme si elle nous avait toujours connus.
Ben oui.
C'était fascinant. Moi, je regardais Paul, puis là, elle nous a invités à s'asseoir, mais ouais. J'ai rien compris. Et j'ai dit, qu'est-ce que... J'ai regardé Paul, j'ai dit, je comprends pas. Puis elle répétait en nous faisant des grands signes. Mais tu sais, c'est un endroit où il y a 6 places.
Oui, avec des tabourets dont la surface...
Qui ont vécu.
Dont la surface est crevassée.
Ah, les restaurants, vous voyez? Restaurants aux États-Unis, les restaurants dans les petites
surtout
villes,
les diners, ah oui, les fameux diners. Restaurants. Là,
et les Waffle House, Paul.
Oui, c'est un classique, le Waffle House.
Ouais. Je suis persuadé qu'il y a un grand nombre de nos auditeurs qui voyagent beaucoup, qui connaissent les Waffle House. Ça m'est arrivé aussi.
On s'en ennuie, d'ailleurs. L'autre chaîne, c'est IHOP, International House of Pancake.
La Maison internationale des crêpes, mais ce ne sont pas des crêpes Suzette, je peux vous le dire.
Non, ce sont les Français l'appellent avec le terme anglais, ce sont des pancakes.
Oui.
Des grosses crêpes épaisses.
Oui, beaucoup de...
Mais les Français disent ça, ce sont des pancakes. Voilà ça. Bon, là, écoutez, Richard nous arrive avec son premier sujet aujourd'hui, j'en reviens pas. L'État du Colorado deviendra prochainement le deuxième État américain à autoriser la transformation des dépouilles mortelles en compost humain.
Oui.
C'est sérieux, oui. Ça?
Que c'est complètement sérieux parce que ça existe depuis l'an dernier dans l'État de Washington. Il y a des propositions, des projets de loi déjà ici dans l'État de New York, dans l'État de l'Oregon et en Californie. Et c'est une façon très environnementale, très écologique de disposer d'une dépouille. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. On dépose le corps sur un lit de paille, de copeaux de bois et de luzerne. Et on dans un conteneur de 2,4 mètres de long, d'un peu plus d'un mètre de haut. Et ça dure 30 jours. Et à intervalles réguliers, les employés de l'établissement mélangent ce qui devient les copeaux. Et là, on peut sortir les plombages dentaires, les implants, les stimulateurs cardiaques, tout ce qui n'est pas biodégradable. Et au bout de 30 jours, vous obtenez à peu près 1 mètre carré de compost humain que vous avez le droit d'utiliser pour planter un arbre, par exemple. Mais vous n'avez pas... il est interdit d'utiliser... le sol, de vendre le compost humain ou de mélanger le compost de différentes dépouilles. Mais c'est, je vous le dis, ça va remplacer, ça va être la voie de l'avenir, surtout pour les gens qui sont dans le bio et l'environnement, là, qui se soucient de l'environnement. Ça va arriver. Il y a un problème peut-être chez vous, il y a l'Église catholique.
Oui, ben c'est ça que j'allais dire. Ouais.
Qui est contre. Elle croit que traiter des restes humains de cette manière ne fait pas suffisamment preuve de respect pour le corps du défunt.
On va y arriver, Richard.
Il y a un autre problème, c'est que les gens, tout le monde veut avoir des funérailles. Enfin, beaucoup de gens veulent avoir des funérailles avec la dépouille. Donc, ça coûte 5 500 $ le processus. Si vous ajoutez à ça la location d'un cercueil, ben là, ça va faire un peu cher. Ça, c'est vraiment pour les gens qui veulent pas... Il n'y a pas d'embaumement, là. Hein?
Mais Richard, rappelez-vous, quand on avait des cours de religion, on nous citait souvent l'expression « tu es poussière et tu vas retomber en poussière ».
C'est vrai.
Hein? Vous vous rappelez de ça?
Oui. Ça, c'est la crémation, on pourrait dire.
Oui,
c'est la crémation.
On pourrait dire ça, mais il y a des gens qui, dans leur dernière volonté, veulent que leurs cendres soient, par exemple, lancées en plein air vers un océan ou vers une montagne.
C'est ça. Alors, ce serait une bonne façon de dire, ben, je veux que vous utilisiez mon compost pour planter des arbres ou pour faire quoi que ce soit. Je veux souligner quand même aussi que ce processus, ce qui est intéressant en plus, c'est que tout ce processus, la loi dans l'État de Washington et la loi dans l'État du Colorado, ont été adoptés à cause d'une seule femme. C'est une femme qui est aujourd'hui dans la quarantaine. Elle était étudiante en architecture et elle a eu l'idée, elle a fait son mémoire de maîtrise sur ce sujet. C'est elle qui a fait du lobbying auprès de l'État de Washington. Donc, elle a créé son entreprise qui s'appelle Recompose. Et là, elle va ouvrir une succursale dans l'État du Colorado. Dans l'État du Colorado, les deux chambres ont voté la loi. Le gouverneur a dit qu'il la promulguerait puis elle pourrait entrer en vigueur là, d'ici 4 ou 5 mois. Donc, ça s'en vient, vous allez voir, ça va être la voie de l'avenir.
Alors, l'autre nouvelle, c'est que l'État du Maine, on s'ennuie de l État du Maine, c'est un endroit très fréquenté par les Québécois. Évidemment, il y a Old Orchard, mais il y a beaucoup plus que Old Orchard dans le Maine. Le Maine devient un État où on va pratiquer de façon très systématique la culture des algues marines, parce qu'on dit qu'il y a de l'avenir dans les algues.
Ben, c'est parce que dans l'État du Maine, le golfe du Maine se réchauffe. Il est très peu profond. Il se réchauffe à cause du réchauffement climatique. Et les pêcheurs de homards craignent que les homards, justement, migrent vers le nord, donc peut-être vers le littoral du Nouveau-Brunswick où l'eau est plus froide. Donc là, ils ont commencé à faire la pêche aux algues. Donc les algues marines, je vous le dis, c'est très important. Ça contient de la protéine, ça contient 5 fois plus de calcium que le lait. Et selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en 2051, la production d'algues marines va dépasser celle de la production de pommes de terre. Alors comment ça se passe? C'est une culture marine. On prend une ligne de 45 mètres de long avec des graines d'algues qu'on dépose à 3 mètres sous l'eau avec des bouées. Donc là, à un moment donné, on est en train de faire la récolte cette année. En ce moment, la récolte se termine au mois de juin. Dans le Maine, en 2018, la production était de 18 000 kilos et aujourd'hui, cette année, elle va être de près de 400 000 kilos. Donc, c'est très rapide. Il faut se rappeler que les émissions de gaz carbonique de nos voitures, de nos centrales électriques, de nos usines, elles se retrouvent, il y a un tiers de ces émissions qui se retrouvent dans l'océan. Donc, l'océan, ça provoque l'augmentation de l'acidité des océans. L'augmentation de l'acidité, ça empêche les huîtres, les palourdes et les moules, par exemple, à développer des coquilles assez solides. Et donc, on pense que les algues absorbe le gaz carbonique. Donc, c'est l'aspect écologique qui est très important. D'ailleurs, je vais encore parler de Jeff Bezos. Jeff Bezos, l'homme le plus riche au monde, il a créé l'an dernier le Fonds de la Terre Bezos avec une dotation de 10 milliards de dollars. Et là, il vient de verser 100 millions au World Wildlife Fund qui, lui, a versé certaines sommes à un groupe qui s'appelle Océan 2050. Et qui a fondé ce groupe Océan 2050? Mmh. Alexandra Cousteau. La petite fille du commandant Jacques Cousteau.
Ben oui.
Jacques-Yves Cousteau.
Jacques-Yves Cousteau. Donc, ce Océan 2050 va faire sur 15 mois une étude dans 21 fermes d'algues marines dans 12 pays, justement pour confirmer que ces algues marines permettent d'absorber et de séquestrer le carbone, donc elles pourraient aider au nettoyage finalement des océans. C'est vraiment très intéressant, mais
fascinant.
Le Maine, ça augmente d'une façon fulgurante la production d'algues marines. Et vous savez qu'il y a des chips ici aux algues, vous avez ça au Québec.
Oui,
aussi,
oui, j'ai déjà goûté ça. C'est différent. Oui,
c'est un peu comme le kale, on s'habitue.
C'est ça. Merci beaucoup, Richard. Bonne semaine à New York.
Au revoir.
Au revoir.